Le président de l'UDPS s'est éteint hier à Bruxelles de suite de maladie à l'âge de 84 ans. Trois fois Premier ministre sous la Deuxième République, Étienne Tshisekedi est considéré à ce jour comme la personnalité politique nationale qui a beaucoup contribué à l'avancement de la démocratie en RDC, selon plusieurs analystes. Quelle analyse faire de son parcours politique? C'est notre thème de ce soir. Et pour en parler, je reçois professeur Kambaï Boacha. Bonsoir, professeur.
Bonsoir, mon ami.
Vous êtes professeur à l'Université Pédagogique Nationale et spécialiste en histoire des mentalités. Professeur Moïla Chiembe, bonsoir.
Bonsoir, Alain.
Vous êtes directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Professeur Pierre Virgence, bonsoir. Vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique et à l'Université de Boutembo en RDC. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Vous le savez, Étienne Tshisekedi est mort. Le président de l'UDPS s'est éteint de suite de maladie hier mercredi à Bruxelles, où il était hospitalisé depuis la semaine passée. Il quitte la terre des hommes à l'âge de 84 ans. Il est considéré à ce jour comme l'opposant politique le plus connu en RDC. Mais Étienne Tshisekedi était véritablement plus que cela. Dona Madimba nous donne les grandes lignes de son portrait.
C'est dès les premières années du Congo indépendant que son mariage avec la politique commence. À 28 ans à peine en 1960, Étienne Tshisekedi est déjà adjoint du ministre de la Justice de l'époque. Et c'est 5 ans après qu'il occupe son premier poste de ministre titulaire, celui de ministre de l'Intérieur en 1965. Mais entre-temps, c'est-à-dire de 1961 à 65, il occupe le poste de recteur de l'ENDA, École Nationale de Droit et d'Administration. Yachichi, comme le peuple aimait bien l'appeler affectueusement, collabore en 1967 à la rédaction de deux documents importants du pays, le Manifeste de l'Ancelé qui inspire plus tard la création du parti État, le MPR, mais également la première constitution du pays, celle de Luluabourg. En 1980, le président de l'UDPS critique dans une lettre et avec 12 autres de ses collègues députés la gestion Mobutu du pays. Lettre qui sera baptisée « Lettre ouverte de 13 parlementaires » nés à Kananga au Kasaï occidental en 1932 et le tout premier diplômé en droit du Congo en 1961, le sphinx délimité a surtout marqué l'histoire pour deux autres raisons. D'abord le nombre de fois qu'il est resté premier ministre, 3 au total et à chaque fois pour de très courtes durées, 1 mois et 2 jours en 1991, 7 mois et 3 jours entre 1992 et 1993 et enfin 7 jours seulement en avril 1997. Autre raison, c'est aussi par le fait qu'il est resté opposant à tous les régimes depuis les années 80 jusqu'à son décès. Il ne participa à la présidentielle qu'une seule fois, en novembre 2011, une élection qu'il n'est reconnu jamais avoir perdue. Un mérite cependant à mettre à l'actif du président de l'UDPS, selon les analystes, il est resté l'opposant le plus farouche et le plus constant dans ses positions, mais également la personnalité politique nationale qui a beaucoup contribué à l'avènement de la démocratie en RDC.
Merci Dona Madimba. Professeur Kambaï Boacha, vous êtes professeur à l'Université Pédagogique Nationale et spécialiste en histoire des mentalités. Professeur, comment vous analysez le parcours politique d'Étienne Tshisekedi?
Vous comprenez, je voudrais d'abord présenter mes condoléances à Marthe Tshisekedi, à son fils et à toute la famille. Quelque part, c'est aussi ma famille. L'analyse politique. Voici un homme qui, de tout le temps, depuis qu'il est devenu docteur en droit, le premier docteur en droit, a occupé d'une manière ombrageuse la scène politique. Il a grimpé, sinon il a gravité avec la scène politique congolaise qu'il a incarnée avec le président Mobutu. Voici Étienne Tshisekedi à côté de Mobutu, en train de confectionner après l'indépendance, nous sommes en 1965, confectionner l'image, le spectre de la nouvelle République qui voit le jour. Ne connaissant pas très bien, ou connaissant très bien les velléités dictatorial du président Mobutu, le président Tshisekedi accepte de collaborer. Il a collaboré, à un moment donné, et il accepte avec Mobutu tout en échafaudant la doctrine ou les doctrinaux, les fondamentaux, n'est-ce pas, de MPR pour bâtir la République démocratique du Congo. Nous sommes après le coup d'État de Mobutu. Après, il a constaté que le président Mobutu avait eu, comment dirais-je, la viande cachée en dessous de Bidia. Alors, Mobutu, à un moment donné, il dit, écoutez, nous voulons arriver à créer un parti unique. C'est dans un contexte Est-Ouest. Ben, on a fait de lui, de Mobutu, bien sûr, on a fait de lui un président devant servir les intérêts de l'Ouest.
Vous faites allusion à la guerre froide.
Bien sûr. Entre-temps, Mobutu, le président Mobutu, qui va devenir dictateur, il l'était déjà par la façon d'être au monde, n'est-ce pas? Il a, comment dirais-je, il s'est entendu avec Mobutu dans un cadre démocratique de constituer des tendances à l'intérieur de MPR qui va devenir MPR parti État. À un moment donné, tu sais qu'il dit, prenant Mobutu au mot, il s'est dit, mais alors, à ce moment-là, à l'intérieur de MPR, nous devons avoir deux tendances. Voilà ce qui va effaroucher Mobutu. Et tout va partir de là jusqu'à sa mort.
Alors, professeur, quand vous dites qu'il a occupé d'une manière ombrageuse la scène politique congolaise, à la limite, ça ne serait pas péjoratif?
Pas du tout. Pas du tout. Quand je parle de ombrageuse, je veux dire que le peuple congolais, à ce moment-là, ne savait pas ce que c'est être de gauche ou de droite. S'il le savait, c'était les quelques intellectuels, mais le peuple en général. Ben, vous comprenez, quand je parle d'ombrageux, c'est pas du tout péjoratif, pas du tout. C'est que, à ce moment-là, on ne connaissait pas, voici cinq ans, même 10 ans, qu'on sort de la colonisation. La Belgique n'a pas colonisé sa colonie en termes d'opposition gauche-droite, blancs et noirs, vous comprenez. Il est entré à l'intérieur de cela, fouinant, regardant, témoin, à côté de la vérité. C'est quoi la vérité? Le bien du peuple congolais. Voilà.
Alors, professeur, Tshisekedi a beaucoup contribué à l'avancement de la démocratie en RDC. Par quoi peut-on le voir?
Écoutez, par quoi on peut le voir? Voici un homme qui, pendant tout son parcours politique, n'a jamais cru à cette fameuse définition de la démocratie, selon un certain président américain qui nous a dit « La démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. » Il avait déjà compris ce quoi le pouvoir du peuple. Il a bien compris cela, un juriste qu'il est. C'est quoi le pouvoir du peuple? C'est quoi le pouvoir du peuple par... vous voyez, cette petite particule-là, par le peuple, mais encore plus, pour le peuple. Non, Tshisekedi a compris, depuis l'aube de l'indépendance, il a compris que la démocratie signifie le respect de la dignité de l'homme, le placement de l'homme au centre de la préoccupation des gouvernants. Voici pourquoi il a lutté, mon ami, voici pourquoi il a lutté depuis 65 jusqu'à sa mort, pour que le peuple congolais trouve sa dignité. Et la façon d'expressionner, si je peux ainsi m'exprimer, d'expressionner sa liberté, c'est parler. La liberté de parole, la liberté d'être, la liberté de constituer des syndicats, la liberté de constituer des partis politiques. Quand quelqu'un arrive pour dire, moi je suis Tatabo Moko, ben, vous allez trouver Tshisekedi sur votre parcours. Voilà,
merci, professeur. Merci, professeur. Professeur Moïla Tshiembé, le directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Qu'est-ce qu'on peut retenir de positif, professeur, pour commencer dans le parcours politique d'Étienne Tshisekedi?
Ben Alain, je pense qu'il y a peut-être plusieurs choses à retenir, mais pour des raisons de pédagogie, il faudrait peut-être s'arrêter à trois idées ou trois héritages. De mon point de vue, le premier héritage est que Étienne Tshisekedi a été le type idéal de l'opposition radicale chaque fois qu'il avait la conviction, à tort ou à raison, que la moindre compromission mettrait en danger la patrie. À ce titre, par les exemples et par les paroles, il a fait de la militance politique un véritable sacerdoce, à l'image de parlementaires debout, que l'on voit partout en République démocratique du Congo, modèle ici l'année de chasteté politique, voici plus d'un quart de siècle. Deuxième héritage, contrairement au leadership de son temps, Étienne Tshisekedi s'est évertué à penser, en dépit des bégaiements de victoire, que la démocratie et le progrès social sont le cœur et la raison d'une nouvelle modernité pour la République démocratique du Congo. Alors, à ce titre, on peut penser qu'il est l'un des pères, sinon le père, de l'idée d'un gouvernement de l'action. Gouverner, c'est agir, gouverner, c'est faire. Et ce gouvernement de l'action, dans les discussions ou dans les propos qu'il a tenus ça et là, on peut le définir, sens de la science politique, comme l'agir, le gouvernement de l'agir, c'est-à-dire l'agir des gouvernants sur l'agir des gouvernés, pour autant que les hommes et les femmes du Congo demeurent libres et responsables de leurs actes, c'est-à-dire capables de dire oui ou de dire non s'il y a lieu, dans le sens de la dignité humaine dont parlait tout à l'heure notre distingué collègue, le professeur Boitia. Alors, la troisième idée ou le troisième héritage est que Étienne Tshisekedi, jusqu'à sa mort, il a été et demeure le chantre teigneux, exigeant de la non-violence dont il pensait jusqu'à sa mort que la seule légitimité du pouvoir qui vaille est celle que l'on obtient par la volonté du peuple. Et cette volonté du peuple doit être exprimée par la voie des élections libres, démocratiques et transparentes. Alors, de ce fait, il décrétait aux grandes dames de ses conseillers que quiconque prend le pouvoir par les armes ne peut à jamais être considéré comme un démocrate. Au pire, selon lui, c'est un tyran sanguinaire, au mieux, un dictateur. Voilà, d'une manière ramassée, les quelques idées qui me paraissent évidentes comme l'héritage que Étienne Tshisekedi laisse au peuple congolais et au peuple africain. C'est sur le plan des idées. Les idées ne sont pas seulement versées vers un peuple ou un groupe donné, les idées appartiennent à l'humanité.
Professeur, en 1980, avec le mouvement de 13 parlementaires, peut-on dire que dans ce contexte difficile, Tshisekedi, à l'instar de Mandela et des tant d'autres grands leaders du monde, a su braver la peur dans un contexte qui était très difficile?
Mais comme mon collègue Boitia l'a dit tout à l'heure, Étienne Tshisekedi, c'était quelqu'un de très exigeant. Il est vrai que dans le contexte où il fut parmi les premiers à avoir un diplôme universitaire, notamment en droit, il y avait à l'époque des idées en Europe selon lesquelles les pays, les nouvelles colonies, enfin les anciennes colonies devenues des États indépendants, avaient besoin de l'unité nationale et de forger le destin par un pouvoir fort. Et je ne doute pas qu'il ait à un moment ou à un autre cru que ce pouvoir fort dans un pays émietté qui sortait de sécessions et de rébellions, il fallait l'organiser d'abord à travers la Constitution de Lulawesi, dont on a parlé tout à l'heure, avec une vision décentralisée du pouvoir. Et lorsque Mobutu a fait son coup d'État, il a participé à l'élaboration du manifeste de l'Ancelé, qui, il faut le compléter, ce que le professeur Boitia vient de dire, prévoyait deux partis politiques au maximum. Et malheureusement, ces deux partis n'ont jamais vu le jour, et récriminant au jour, au fur et à mesure que les années passaient, il s'est rendu compte, à tort ou à raison, que le président Mobutu avait divisé pour être président à vie. Et contrairement à ce qu'on aurait pu penser, il aurait dû se taire, évidemment, profiter des avantages du pouvoir, ministre, et des privilèges que ça lui donnait. Et il a été contraint par la prise de conscience qu'il avait, sa propre vision de la société, son souci démocratique, de dire qu'il fallait s'opposer, il fallait revenir à l'idée qu'il puisse y avoir au moins deux partis, comme Mobutu ne voulait pas, et c'était cette dissidence, effectivement, qui lui a permis de braver la peur. Et d'ailleurs, il faut se souvenir, pour les plus jeunes d'entre nous, qu'à l'époque, il faisait des meetings pour dire à la population « n'ayez pas peur ». N'ayez pas peur, sur le président Mobutu, c'est un être humain comme nous, mais il est dictateur, mais n'ayez pas peur.
Merci,
et
professeur.
C'est, comment dirais-je, cette conviction qui lui a permis, évidemment, d'affronter l'adversité à côté de cet homme éminent qui est le président Mobutu.
Merci, professeur. Professeur Pierre Virgence, vous êtes professeur à l'université de Liège en Belgique et à l'université de Boutembo. Vous avez suivi les trois points relevés dans l'héritage d'Étienne Tshisekedi par professeur Moïla Chiembe. Vous avez suivi professeur Kambai Boacha également. Professeur, qu'est-ce que vous retenez de positif du parcours politique d'Étienne Tshisekedi? Professeur Virgence? Voilà, je crois que nous avons perdu le professeur Pierre Virgence, professeur Kambai, professeur, vous avez suivi, professeur Moïla, dans le premier point, ce qui concerne l'héritage d'Étienne Tshisekedi, il parle d'un type idéal de l'opposition radicale militante qui il en a fait pratiquement un sacerdoce. À la limite, certains de ses détracteurs ont considéré cela comme une faiblesse.
Écoutez, mon collègue, mon distingué et mes collègues, bon, il a, je vous salue, j'adresse mes voeux de nouvel an, mais il a parfaitement raison quand il parle d'héritage oppositif. Effectivement, mon ami, l'héritage ne peut être qu'oppositif parce que culturel. Qui parle de culturel parle de culture. Quand on parle de culture, on parle de dépôt. Le dépôt. Quand on dépose, c'est pour que les générations qui viennent puissent hériter, voilà l'héritage, puissent hériter de cela, le lait. Sans compromission. Voici un homme qui, de tout le temps, n'a pas accepter la compromission. Regardez Tshisekedi depuis, comme mon collègue, mon estimé collègue a dit, depuis 92, après l'affaire Katekelai, après avoir annoncé, après avoir adressé une lettre terrible à propos du mal congolais, et le mal zaïrois, n'est-ce pas, qui a dit, citant Rombart, citant Camus, citant Heidegger, citant tout ce monde-là, a dit, notre liberté ne vient pas d'un César. Vous comprenez, c'est important ça.
Merci professeur, on me signale que le professeur Pierre Virgence est en ligne. Professeur, vous nous suivez?
Oui, je vous suis tout à fait. Oui.
Merci beaucoup, professeur. Vous êtes professeur à l'université de Liège en Belgique et à l'université de Boutembo en RDC. Professeur, qu'est-ce que vous retenez de positif et de négatif qu'on peut considérer comme les faiblesses du parcours politique d'Étienne Tshisekedi?
Bon, je suis désolé, je vais probablement répéter ce que mes prédécesseurs ont dit parce que je pense que les qualités d'Étienne Tshisekedi sont remarquables. Donc, je suppose que tout le monde les a déjà soulignées. D'abord, son courage énorme, évidemment, face au régime de Mobutu. Hein, il a passé des années en prison, en détention, en liberté surveillée. Donc, c'était vraiment un régime très sévère et il a été très courageux, effectivement, de ces 13 parlementaires qui avaient osé s'opposer à Mobutu en 1980. Il a vraiment incarné le courage jusqu'au bout. Ça, c'est, je pense, le premier élément, je dirais, dans sa carrière. Par ailleurs, et on a bien fait de le rappeler tout au début, ça j'ai pu entendre, c'était un étudiant sorti très tôt des universités. l'identité congolaise, donc qui était destiné effectivement à devenir rapidement un leader du Congo. Donc c'est quelqu'un de brillant intellectuellement, qui avait une analyse politique d'envergure. Il a d'ailleurs servi très haut dans le pouvoir de Mobutu jusqu'en 1980, jusqu'au moment de cette lettre. Et puis de ce courage. Donc ce courage à côté de cette intelligence qui est phénoménale. Et puis alors à côté de ça, je dirais son obstination, sa capacité de répéter le même message en étant dans l'opposition. Alors, dans un pays, et même si je prends certains auteurs, dans un continent où on estime que la politique, c'est la politique du ventre, et où l'objectif des hommes politiques, c'est de bouffer, c'est-à-dire de prendre sur le patrimoine public des éléments pour enrichir leur patrimoine privé. Là, il a été un véritable modèle, puisque à partir de 1980, il ne s'est plus compromis du tout avec le pouvoir. Il a eu cette obstination de la résistance, et donc là, il n'a pas empoché les bénéfices que la plupart des hommes politiques pensent qu'il faut empocher quand on fait partie du pouvoir. Et là, je dirais, c'est une autre forme de politique. D'une certaine manière, il est de ce point de vue-là un anti-Mobutu, un anti-Kabila, si on veut, parce qu'effectivement, il incarne celui qui va dans l'opposition volontairement, en choisissant de ne pas avoir des biens plus nombreux après son mandat électoral que avant. Ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait remarquable.
Professeur.
Autre élément remarquable aussi, c'est le fait que les combats qu'il a menés avec les jeunes de Kinshasa qui parvenaient à enrôler dans ces manifestations, ces combattants, c'était des combats qu'il voulait non violents. Et ça, c'est aussi remarquable. Je dirais, de ce point de vue-là, je dirais, si on va jusque-là, jusque 2006, je dirais, c'est une sorte de Nelson Mandela. Il a le courage, il a l'obstination, il a la volonté de faire quelque chose de la non-violence, il a l'intelligence. Et puis en 2006, on ne comprend pas pourquoi, en fait, il refuse de participer aux élections. Il va accepter de participer à celles de 2011, et les résultats seront très probablement moins fiables ceux de 2011 que ceux de 2006 l'avaient été. Et donc là, effectivement, je dirais que son erreur politique, en quelque sorte, c'est de penser que les jeux étaient joués d'avance complètement et qu'il était inutile de participer à ces élections. Sinon, je suis persuadé que Étienne Tshisekedi aurait eu toutes ses chances en 2006.
Professeur, il y a cet auditeur François Moulila de Lubumbashi qui dit « La perfection n'est pas de cette planète, mais nous devons prendre ses ratés et ses prouesses pour améliorer notre avenir. » Étienne Tshisekedi était un homme presque incompris suite à sa clairvoyance et sa constance dans la manière de conduire la politique congolaise.
Tout à fait, ça c'est clair qu'il avait une grande clairvoyance. D'ailleurs, il était soutenu un peu partout au Congo, hein.
Mais est-ce qu'il était incompris, professeur?
S'il vous plaît?
Est-ce que Étienne Tshisekedi n'était pas compris de ses contemporains?
De ses partenaires politiques éventuels, certainement qu'il n'était pas compris, puisque la plupart des hommes politiques avec qui il négociait étaient des gens qui cherchaient à obtenir des postes importants de pouvoir de manière à pouvoir augmenter leur patrimoine privé. De ce point de vue-là, il ne fonctionnait pas du tout comme eux. Ça, c'est absolument clair. Il n'était pas compris par ses partenaires de négociation.
Alors, professeur, il y a...
Maintenant, moi, je pense que par le peuple congolais, il était compris. Moi, je crois que par le peuple congolais, il était compris. Je me souviens très bien d'avoir été interpellé dans le sud, Kivu, donc en 2006, par des gens qui me disaient « Mais pourquoi est-ce que Tshisekedi n'est pas candidat aux élections ?» Donc, je veux dire, dans un pays loin de chez lui, je dirais une province loin de la sienne, eh bien, il y avait des gens qui disaient « Voilà quelqu'un qui nous sert de modèle. » Je veux dire, donc je pense que le peuple congolais a considéré Étienne Tshisekedi comme un véritable héros national, et je pense qu'effectivement, le pouvoir a eu, je pense, la bonne réaction en considérant qu'il fallait effectivement lui faire des funérailles nationales. C'est un héros national à sa manière. Et effectivement, il a des défauts, on peut dire son obstination, à ne pas assumer, je dirais, des responsabilités de premier plan quant au gars proposé la primature. On peut avoir l'impression que c'est pas seulement Mobutu qui était de mauvaise foi, c'est peut-être lui aussi qui a été agressif d'une façon inutile vis-à-vis du président. Peu importe, je dirais, c'est effectivement ça des défauts qui font partie de l'être humain. Hein.
Merci
mais son courage, ses combats non violents, ça, je pense que ça a été compris par le peuple congolais. Oui.
Merci, professeur. Professeur Kamba, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kananga.
D'abord, mes sincères condoléances à la famille du décès de Tshisekedi. Il vient de nous quitter dans un moment très difficile dans notre pays. Ce qu'il faut savoir, c'est que M. Tshisekedi, il était un vrai combattant. Parce que le jour où il était nommé même premier ministre, beaucoup de choses avaient même passé. Les prix, s'il était président de la République, ce qui allait se passer. À mon avis, je demande à notre gouvernement que l'accord du 31 décembre au centre interdiction soit appliqué et signé par tous en mémoire de Étienne Tshisekedi au Moulumba.
Si Étienne Tshisekedi avait été premier, avait été président de la République, qu'est-ce qui se serait passé, professeur Kamba Ibwacha? Étienne Tshisekedi, trois fois premier ministre, peut-on dire qu'il a été l'éternel second?
J'aimerais réagir positivement face à cela en reprenant les propos tout à fait justes et justiables de mon estimé collègue de Liège, de l'Université de Botembo, comme d'ailleurs pour mon collègue Moïa Tshiembé. Pierre Vergeon nous a parlé des choses extraordinaires, répondant ainsi à monsieur Amokendi de Kananga. Le leader politique Étienne Tshisekedi, vous savez, c'était un pédagogue. J'ai l'habitude, dans un cadre de l'histoire de mentalité, de dire qu'il était pédagogue révolutionnaire. Il n'était pas pour le changement de mentalité, mais il était pour la conversion de mentalité. Tout comme Nelson Mandela, comme l'a dit mon collègue Pierre Vergeon. Il était pour cela. Il était non-violent. N'est-ce pas? Nelson Mandela était non-violent. Tout comme Nelson Mandela, il faudrait qu'il devienne héros national. Nous, mon ami Mukendi de Kananga, et il a bien dit en complétant quelque part le professeur Vergeon en disant que Tshisekedi n'a pas accepté cela. Et comme vous le dites très bien, que Tshisekedi, pourquoi il n'a pas accepté? Mais il n'a pas accepté parce qu'il connaissait très bien que les gens avec qui il travaillait ne comprenaient pas le sens de l'indépendance. De l'indépendance et de l'être au monde.
Mais finalement, est-ce que cette obstination, comme a dit le professeur Vergeon, ne devenait pas, en d'autres termes, une faiblesse?
Pas du tout. Pas du tout. Il voulait aller avec la logique jusqu'au bout. Vous voyez, un non-violent, ce n'est pas celui qui réagit du coup au coup. Il vous laisse aller, il vous enseigne, il vous dit, ça, vous verrez, ça ira, vous verrez, ça ira. Et au bout de compte, il vous amène. Et aujourd'hui, Tshisekedi vient démontrer, Étienne Tshisekedi, vient bien démontrer, voici ce que je vous ai dit. C'est comme le Galiléen, il vous dit, il est écrit que.
James Djupato de Bounia, professeur, dit en exploitant son parcours politique, Étienne Tshisekedi a été un leader qui ne savait pas saisir les opportunités qui se présentaient devant lui. Il croyait que tout pouvait aller si bien, si et seulement si lui était président de la République.
C'est très bien ça. Est-ce qu'un homme sérieux est opportuniste? Est-ce qu'on doit être opportuniste? Non. Non, il faudrait agir d'une manière opportune. Quand quelqu'un agit d'une manière opportune, n'est pas opportuniste. Et Étienne Tshisekedi a bien compris qu'il n'y a pas de place dans sa façon d'être, dans sa philosophie, dans son boumontologie, n'est-ce pas? Dans son ontologie très sec, il n'y a pas de place pour l'opportuniste. Il faudrait saisir. Notre temps n'est pas encore là. Alors il a lutté. Ma foi, le bon Dieu l'a pris. Et voici le coq s'éteint, et nous attendons aujourd'hui que notre coq arrive pour coquerico.
Merci, professeur.
Voilà, pour coqueriquer, pour que ceux qui dorment se réveillent.
Merci, professeur. Professeur Moïla Chiembe, il y a pour vous cette réflexion qui nous vient de Kabinda.
C'est Maître François Kalemboué depuis Kabinda, chef-lieu de la province de Lomami. La meilleure façon de pleurer le père de la démocratie pour les hommes politiques, c'est le respect et l'application totale de l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais la seule crainte pour moi est que n'ayant peut-être pas préparé un successeur, son parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, risque de connaître des divisions qui entraîneront même sa disparition à l'instar des autres partis de l'histoire de la RDC. À ce qui reste d'être sage et de choisir un vrai combattant qui pourra emboîter les pas.
Voilà, professeur, Maître François Kalemboué craint pour l'avenir de l'UDPS. J'ajoute cette réaction de Gracie Manzongo de Kinshasa qui dit « Il n'y a pas de fleurs sans épines. Étienne Tshisekedi prônait une démocratie pour le pays, bien sûr, mais une démocratie qui n'a jamais été effective au sein de son propre parti, l'UDPS. Il en veut pour preuve plusieurs dissensions, plusieurs cas au cadre de ce parti qui l'ont quitté. »
Disons que dans ce parcours brillant, comme dans tous les chefs-d'œuvre, il reste des points sur lesquels on peut s'interroger, notamment la question de la démocratie à l'intérieur de l'UDP. D'abord, la première chose, c'est que, Étienne Tshisekedi, quelles que soient les qualités et les défauts, a laissé au pays un véritable parti politique au sens occidental du terme, ce qu'on appelait jadis les partis de masse. Quelle que soit la province que vous parcourez en République démocratique du Congo, quels que soient les pays étrangers, européens ou nord-américains, même en Chine, il y a des Congolais, membres de l'UDPS, qui le disent et qui l'expriment. Donc, au-delà de cet aspect d'avoir laissé à l'héritage national un véritable parti, alors la question de la démocratie interne a été une des causes de l'hémorragie à l'intérieur de l'UDPS. Beaucoup de cadres l'ont quitté, non seulement parce que sa vision un peu sacerdotale de la mission politique, tout à l'heure on parlait de la peur, est-ce qu'il avait peur de gouverner? Non. Il pensait que le gouvernement a comme finalité rendre service à la nation, améliorer la vie des gens. Si on ne peut pas améliorer la vie des gens, il ne sert à rien de prendre le pouvoir pour le pouvoir sans plus frais, sa mettre plein les poches. Évidemment, maintenant qu'il a disparu, alors que c'était sa figure papale qui faisait l'unité de l'UDPS, est-ce que ces différentes chapelles de l'UDPS, ceux qui sont déjà partis depuis des lustres, ceux qui sont encore là à la mangeoire, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, il faut souhaiter que cet héritage, que revendique le pays, que revendique tous ceux qui l'ont connu, et que c'est, comment dirais-je, ceux avec qui il a dirigé ce parti, différentes générations, que ces gens-là montrent au pays qu'ils n'ont pas été seulement de second couteau, qu'ils n'étaient pas là dans l'ombre de cette éminente personnalité, juste pour jouer la figuration. C'est le moment maintenant qu'ils doivent montrer au pays ce qu'ils ont tiré comme leçon de sa présence, et la réalité du pouvoir qu'ils doivent assumer d'abord à l'intérieur de leur propre parti, qui doit rester uni pour servir le pays, parce que les craintes de la dislocation de l'UDPS ne sont pas tout à fait imaginaires. Ça fait partie des problèmes de la vie humaine. C'est sa personne qui a fait l'unité de l'UDPS jusqu'à présent, malgré les dissensions, malgré les départs, etc.
Professeur, il est évident qu'Étienne Tshisekedi laisse un héritage élogieux. Professeur Virgence a relevé que le fait pour Étienne Tshisekedi d'avoir refusé de se présenter en 2006 est considéré comme une erreur politique selon lui.
Ben, disons que dans la stratégie du pouvoir, lorsqu'on a une certaine idée du pouvoir, comme je disais tout à l'heure, et ce monsieur a toujours pensé que le vrai pouvoir vient du peuple et qu'il n'y a pas deux manières de l'exprimer que de donner l'occasion au peuple par les élections. Alors, à tort ou à raison, il pensait que l'écart était biaisé et que s'il s'engageait dans une compétition totalement truquée, il sortirait probablement laminé par les résultats, et que sa conscience ne serait pas tranquille, parce qu'il avait toujours l'appréhension, à tort ou à raison, que le peuple le suivrait et que certaines personnes ou certains partis pouvaient accaparer l'héritage ou l'alliance qu'il a conclue avec le peuple. Et cette peur légitime a fait qu'effectivement, à un moment donné, il n'a pas voulu entrer dans certains gouvernements, ce qui fait que la plupart des personnes, des cadres, aujourd'hui, si vous regardez le PPRD, si vous regardez le MLC, si vous regardez tous les partis qui ont pignon sur eux, la plupart des cadres viennent de l'UDPS.
Merci.
C'est cette rigueur morale qu'il exigeait de tout le monde. Vous savez, quand il a été nommé Premier ministre, la première mesure à l'époque de Mobutu, de la Conférence nationale, a été de demander à ce que les ministres remettent toutes les voitures,
tous les biens mal acquis,
bénéficier du gouvernement.
Merci, et professeur.
Qui, dans son propre camp,
merci.
A provoqué la grogne.
Merci, professeur Moïla. Professeur Pierre Virgence, il y a pour vous cette réaction qui nous vient du Maniema.
Il combe le Sumba Sumba Isaac depuis Tindou dans la province du Maniema. Il a marqué son temps. Il aura été l'homme de tous les temps pour s'être opposé à presque tous les régimes. C'est à mon avis le type d'opposant qu'il fallait pour la RDC, en dépit du fait que sa liste n'aura pas été couronnée de succès pour n'avoir pas réussi à accéder au pouvoir. J'estime que sa liste mérite une reconnaissance nationale, au même titre que Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila.
Le professeur, la lutte d'Étienne Tshisekedi n'est pas couronnée de succès selon Kilikumbi Lusumba Sumba que vous venez de suivre, du fait qu'il n'a pas, il n'a pas dirigé, il n'a pas brigué la magistrature suprême. Professeur Virgence? Voilà, désolé, nous venons encore une fois de plus de le perdre. Professeur Kambay, est-ce que je vous pose la même question? La lutte d'Étienne Tshisekedi n'a pas été couronnée de succès parce qu'il n'a pas brigué la présence de la République.
Vrai, écoutez, une telle question appelle à une réflexion suivante. Est-ce que la prédication du Galiléen est couronnée du succès? Nous disons oui, non, il n'a pas gouverné une république.
Doit-on faire de l'opposition pour l'opposition, professeur?
On ne doit pas faire l'opposition pour l'opposition. Ce sont les gens qui ont dit que Tshisekedi était un opposant. Non, c'est le peuple congolais par Étienne Tshisekedi qui s'est opposé positivement au régime en place. C'est le peuple congolais. Et le peuple congolais a vu en Étienne Tshisekedi le porte-parole, la voix de sa voix des opprimés. Les opprimés, voici, nous sommes à 65. 65, guerre froide. Le peuple congolais dans la misère totale, dans la paupérisation totale, dans moto na moto et tout ce que vous voulez, et a trouvé en Tshisekedi une personne qui pouvait porter le très haut. Donc, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que le peuple, que Étienne Tshisekedi n'a pas trouvé son compte. Non, ce qu'il a dit. Vous voyez, quelqu'un qui a prêché l'amour, le Galiléen. Et aujourd'hui, tu vois, l'amour, ça fait aujourd'hui l'évangile. Tshisekedi apprenait la légalité.
Merci.
Tshisekedi apprenait, n'est-ce pas, la dignité de la personne humaine. Jusqu'à sa mort, il a été incorruptible.
Merci, professeur.
La corruption, c'est la dégradation.
Merci,
de la nature naturelle de l'homme.
Merci.
Et Tshisekedi n'a pas voulu cela.
Merci. Professeur Pierre Virgence, est-ce que vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne, oui, désolé. Oui.
Et voilà, je suis désolé que la qualité de votre ligne se dégrade tout le temps. Ben, professeur, faudrait-il en ce moment craindre pour l'avenir de l'UDPS, le parti d'Étienne Tshisekedi? Certains observateurs pensent que les dissensions, les querelles internes risquent de primer.
Oui, certainement, c'est un risque. Hein. L'UDPS tenait ensemble par la force justement du charisme et le poids politique d'Étienne Tshisekedi et les autres membres du parti n'ont pas sa stature ni sa capacité de prise de risque ni je dirais presque son courage Et donc, effectivement, ce n'est pas du tout sûr que l'engouement pour le parti qui était présent sur l'ensemble de la République pourra être répercuté de la même manière par les nouveaux dirigeants qui devront remplacer Étienne Tshisekedi. C'est un vrai risque pour le parti, et s'il ne traite pas ça très sérieusement de façon à garder l'acquis à la fois de la notoriété et de la sympathie vraiment que le peuple congolais a pour l'UDPS, eh bien, s'il ne traite pas ça très très sérieusement, en trouvant rapidement entre eux un moyen terme entre toutes les ambitions, eh bien, on va retrouver l'UDPS devenir un parti comme un autre au Congo, et en quelques mois, il va perdre toute sa crédibilité. Mais s'ils parviennent à garder l'esprit d'Étienne Tshisekedi, parler au peuple avec les mots du peuple, avec en même temps une capacité de résister au chantage, à la pression et à la corruption, eh bien effectivement, ils pourront sauver quelque chose. Mais ils peuvent tout perdre en quelques mois s'ils ne font pas très attention.
Professeur, il y a Dodesha Kounsala de Kinshasa qui dit qu'il était constant dans son combat démocratique et la meilleure manière d'honorer la mémoire d'Étienne Tshisekedi, c'est l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Était-ce aussi évident?
Oh oui, c'est évident, puisqu'il a participé à ça. Alors en même temps, on peut se dire que cet accord lui a peut-être été un peu arraché, peut-être qu'il a fait ça aussi pour soutenir, fatigué qu'il était par les jours de négociation, soutenir sa famille et son parti. Mais en même temps, c'est vrai que cet accord est un moyen, je dirais, de faire du Congo un endroit où effectivement la démocratie règne. Voilà, il faudrait que tout le monde puisse unir derrière ce projet d'organiser des élections pour que le peuple entier puisse s'exprimer. Enfin, c'est clair que l'accord de la Saint-Sylvestre était fait pour ça, et que c'est la seule manière, je pense, de pouvoir trouver des élections à court terme au Congo, c'est de réaliser cet accord jusqu'au bout, et ça me paraît clair que ce serait un très beau geste à la mémoire du grand disparu.
Alors, professeur, comment entrevoyez-vous l'avenir de la scène politique congolaise sans Étienne Tshisekedi?
Eh bien, on peut imaginer que dans l'opposition, donc si l'UDPS ne parvient pas à se reconstruire rapidement sans lui, eh bien, on aura des personnalités qui vont émerger et non pas nécessairement des partis. Et là, on sait que pour le moment, la personne probablement la plus populaire au Congo, c'est Moïse Katumbi, à part évidemment la notoriété du président de la République. Mais on sait que Moïse Katumbi est hors du territoire, et donc on ne voit pas très bien comment il pourrait réussir à donner au moment des élections toute sa puissance à sa parole. Et donc là, on peut s'imaginer que on va retourner sur des petits jeux comme on les a vus depuis 2006.
Merci, professeur. Professeur Kambayi, il faut déjà conclure. Comment vous également vous entrevoyez l'avenir de la scène politique congolaise sans Tshisekedi?
Vous comprenez, il y a une seule façon. D'abord, commencer par accomplir à la lettre les accords de la Saint-Sylvestre. Ne pas conclure cela à la lettre signifie que les politiciens congolais sont absents dans leur manière d'être politique. Ils ont confié cela aux prêtres. Et puis, sans Étienne Tshisekedi, certainement qu'il y aura émergence d'autres personnalités.
Merci, professeur. Voilà. Professeur Moïla Tshiembe, conclusion.
Et pour conclure, je pense que l'héritage d'Étienne Tshisekedi est dans le compromis qui a été trouvé le 31 décembre 2016. Il y avait deux personnalités, Étienne Tshisekedi d'un côté, le président de la République, Joseph Kabila, de l'autre. Alors, l'un a disparu, l'autre est au commande de la République. Il est le garant de la nation. Je pense que c'est à lui que nous devons lancer des appels pressants pour que l'héritage de ce qui a été prévu, c'est-à-dire ce compromis historique qui a été trouvé, soit accepté et appliqué demain, qu'il puisse y avoir un...
Merci, événement. Professeur. C'est par vous que nous terminons cette émission. Bonne suite des programmes sur la radio de la paix. Au revoir.